Bonjour à tous. Alors la semaine dernière, j'aurais enchaîné sur un bienvenue pour ce Cloud Jam numéro tatatata. Mais pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère. C'est l'ère des Tech Jam. Alors pour rappel, pour ceux qui connaissent pas, les Cloud Jam, c'était des news cloud décortiquées avec Monsieur Cloud Anthony Monté. Alors bien que personnellement je trouve le sujet super intéressant et probablement sans fin, je me suis dit que c'était dommage de se limiter à cette portion de la tech. D'où le nom. Tech Jam, où on parlera parfois cloud, parfois dev, parfois ops, mais aussi, pourquoi pas, emploi, méthode de travail et geekerie en tout genre. Donc, sky is the limit, comme on dit en bouchonnois. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour tenir une rubrique, faites-moi signe. Je suis Sébastien Pastor à la tête d'un écosystème de freelance qui s'appelle A Freelancer's World, où ça bouge pas mal et ça va bouger encore plus. Alors viendez si vous êtes freelance et de la tech. Et pour cette première édition de Tech Jam, une fois n'est pas coutume, je suis accompagné de Anthony Monté. Salut Anthony.
Salut Sébastien. Vous avez remarqué comment il me remplace allègrement.
Je pensais que tu attendrais un petit peu avant de plonger dans le. Dans ta, comment on appelle ça ?
Ma vindique pour défendre mes droits, mon pain, etc.
Sinon, tu peux dire qui tu es aussi, éventuellement.
Ah oui, bonjour, je suis Anthony Monté, le fondateur de Cloud Mercato, un cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud.
Et oui, et pour ceux qui ne connaissent pas Cloud Mercato, c'est un petit peu the place to go si vous voulez avoir des données factuelles sur les performances cloud. Alors pour cette première édition du Tech Jam, nous avons l'honneur d'accueillir Christophe Chaudier et non pas Gauthier. Bonjour Christophe.
Bonjour, en effet, mon nom c'est bien Chaudier, pourtant ça fait un moment que je spamme partout sur les internets avec mon pseudo.
Et oui, ben on a quand même réussi à faire une typo dans l'annonce, encore toutes mes excuses. Donc Christophe, tu as de nombreuses casquettes, on va essayer de... Il y a quoi ? On peut dire freelance, mentor, vidéaste, entrepreneur, militant, stéphanois, il y en a encore d'autres ?
Tout à fait, il y en a plein.
On va essayer d'en voir pas mal avec toi aujourd'hui. Alors, pourquoi tu es invité du Tech Jam ? Parce que tu coches beaucoup de cases, des trucs qui nous intéressent, l'entrepreneuriat, typiquement, la tech aussi. Et en plus, tu aimes bien parler. Ce que je te propose, c'est d'enchaîner tout de suite sur une petite présentation rapide de ta personne. Qui tu es, Christophe ?
Ah, c'est moi qui dois présenter, j'avais l'habitude que ce soit l'instant Anthony, et je pensais qu'Anthony allait faire une vidéo de ma personne. Moi, je suis entrepreneur, comme tu l'as dit, je travaille dans le numérique. Je travaille depuis longtemps, puisque j'ai commencé ma carrière avec le bug de l'an 2000.
Ah !
Donc j'ai été salarié, etc. Puis ça fait depuis 2015 que je suis freelance et aujourd'hui je tente l'entrepreneuriat. Je vais changer de statut freelance pour devenir entrepreneur dans ma tête. Hein. Je ne change pas de statut juridique. Et aujourd'hui je fais beaucoup de choses. Donc j'anime une communauté qui s'appelle les Compagnons du DevOps. C'est une communauté autour du DevOps, c'est une communauté professionnelle. Autour de cette communauté, il y a une chaîne YouTube, un podcast et évidemment des publications que j'envoie sur LinkedIn régulièrement. Et je fais ça parce que justement le DevOps est au cœur de mon métier puisque j'anime aussi un collectif de freelance qui s'appelle l'Hydra. Et on aide les entreprises à faire une transition DevOps.
Ouais.
Et à côté de ça, je monte des services en ligne justement avec mon associé et l'un d'eux est Frogit, qui est une usine logicielle et on est vraiment au cœur du DevOps parce que nous on le fait avec les outils DevOps et c'est une plateforme qui va aider justement les gens à manipuler les bonnes pratiques DevOps.
Alors ouais, on va en reparler. Alors, c'est génial parce que dans ta présentation, en fait, tu nous as permis d'avoir un sommaire. Donc moi, ce que j'ai compris, parce que voilà, le problème, c'est que t'as plein d'activités, t'es protéiforme, et donc pour essayer de te cerner, moi j'aurais envie de dire, comme dit Anthony, il arrête pas de dire, j'ai envie de dire, tu as une activité freelance d'ops et tu la pratiques au sein de l'Hydra. Ça, c'est la première brique, on va dire. Jusque-là, j'ai bon.
Jusque-là, t'as bon.
Alors, l'Hydra, c'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est que c'est quand même, c'est une structure particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se goupille au sein d'Oxalis, il me semble.
Exact, c'est une structure particulière. Donc, l'Hydra, c'est un collectif d'indépendants et il s'avère que ces indépendants font partie d'une entreprise. C'est une coopérative d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Le terme légal, c'est coopérative d'activité d'emploi qui nous permet d'avoir le statut et à la fois d'entrepreneur et de salarié, d'avoir les avantages sans les inconvénients des deux, ce qui nous permet d'être entrepreneur et de ne pas être précaire, typiquement.
C'est ça, donc c'est une CAE. Et toi, pour essayer de comprendre, toi, tu as un contrat de salarié avec eux, c'est ça?
Oui. C'est ça, c'est un contrat particulier puisqu'il y a eu une loi en 2014 qui a validé l'existence des CAE. Et donc j'ai un contrat qui s'appelle un contrat CESA, contrat d'entrepreneur salarié associé. C'est un équivalent d'un CDI, sauf qu'il est dit dedans que je possède aussi la société si je suis associé, ce qui est le cas.
D'accord. Et alors ça, avant de rentrer peut-être dans le détail, parce que je pense que c'est assez intéressant pour les entrepreneurs en devenir ou même des freelances qui aimeraient changer de statut parce que c'est pas qu'une histoire de statut, je crois que c'est vraiment un mindset. Donc j'ai rencontré pas mal de freelances qui en ont marre un petit peu d'un mindset un peu plus orienté tunas, on peut dire, hein, où, on en connaît tous des freelances qui vont de mission en mission juste parce qu'il y a 100 euros de plus dans le TJ. Donc bon, 100 euros c'est beaucoup, mais bon. Et là, c'est vrai que c'est quand on adhère à une CAE, c'est quand même dans un esprit bien différent. Donc avant de rentrer dans le détail du fonctionnement de la CAE, j'avais une question. Est-ce que dès que tu as commencé ta carrière freelance, tu t'es dit je vais pas me mettre en freelance, genre en entreprise individuelle toute simple, je vais tu es allé directement vers ce statut ou ça a été un cheminement différent?
Avant même de devenir freelance, je savais que j'allais aller vers ce statut. Ah. En fait, ça faisait des années que je me posais des questions sur les sociétés. Alors moi, je me sentais mal dans ma peau. J'étais pas un informaticien très passionné non plus. J'étais doué en fait pour ce que je faisais, mais à part ça, voilà, ça me faisait pas triper plus que ça. Ouais. Puisque à côté, à l'époque, j'avais une maison d'édition de jeux de rôle, donc j'étais déjà à l'époque, je faisais déjà beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut avoir on peut répartir autrement la plus-value, etc. Puis c'est là où j'ai rencontré les coopératives. Et en grattant plus loin, je suis tombé sur les CAE, justement, à l'époque. J'ai lu un bouquin qui m'a convaincu. Et je me suis rapproché de CAE avant de devenir complètement indépendant.
D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît, du coup, dans le fonctionnement?
Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Et c'est là l'intérêt, c'est qu'en fonction de ce qu'on cherche, on peut trouver plein de choses. Alors, moi, j'ai été salarié longtemps, ce qui fait que j'ai cotisé longtemps et j'ai pu constater les bienfaits d'être salarié, puisque quand on est malade, on est pris en charge, on cotise à la retraite puis pour préparer nos vieux jours, on va dire. Il y a plein d'autres avantages comme ça, comme par exemple pouvoir négocier un prêt immobilier hyper facilement. Et je me disais, bah ouais, mais j'ai envie d'être entrepreneur et je veux avoir ces avantages-là. Et ben, du coup, le statut d'entrepreneur salarié nous permet d'avoir ces avantages-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que tu rentres dans une entreprise, du coup, il y a un réseau et tu as des collègues qui ne font pas forcément le même métier que toi, puisque moi, j'ai des collègues, notamment, il y a un apiculteur dans notre société, il y a des formateurs, il y a des menuisiers, il y a même des boulangers. Enfin, il y a plein de métiers différents et donc ça permet de se retrouver avec des gens qui ont une vision de la vie différente.
Ok. Et est-ce que j'ai deux questions qui sont entrechoquées, c'est pour ça que j'ai eu un petit lag. J'avais une question pratique qui était comment tu fixes ton salaire, etc. Mais juste avant, je me disais, tiens, justement, le fait que... parce que j'imagine bien qu'il y a, et j'entrevois les bénéfices à être dans une grosse société lorsqu'on va démarcher des appels d'offres. Si dans cette boîte il y a à la fois des apiculteurs et d'autres corps de métier, est-ce que les interlocuteurs que tu peux avoir ne sont pas intrigués par cet état de fait, ou est-ce que en fait c'est complètement caché et on voit pas du tout que c'est une grosse, enfin que c'est une agglomération d'entrepreneurs de tous bords. Je sais pas si ma question est compliquée, ouais, mal faite, mais est-ce que
j'ai envie de te donner une réponse, ce serait Yamaha Style. Yamaha, c'est une grosse entreprise japonaise. Ils font des motos, ils font des jeux vidéo, ils font des consoles, ils font des ordinateurs, ils font des imprimantes, ils font vraiment plein de choses qui n'ont rien à voir entre elles et pourtant ça n'enlève pas leur crédibilité. Là, c'était mon petit instant.
Ouais, sauf que eux, ils n'ont pas des parts dans la société.
Alors, pour répondre à ta question, c'est pas gênant dans le sens où nous, on est assez transparent puisqu'on a deux marques. Déjà, on ne peut pas communiquer au nom d'Oxalis. Hein. Quand on communique au nom de l'Hydra. Et puis, quand on envoie les premiers devis, on envoie une présentation de la société et notre collectif.
Ouais.
C'est assez bien expliqué. On a fait un document, justement, qui explique tout ça. Et c'est pas gênant parce que derrière, ils voient qu'il y a une société quand même qui fait un certain nombre de chiffres d'affaires. Et de toute façon, c'est la société Oxalis qui va signer les contrats et qui s'engage. Donc, c'est rassurant aussi pour les clients qui signent avec nous.
D'accord. Ok, donc ouais, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, il n'y a peut-être pas d'inconvénients du tout, et notamment ouais, sur la partie chiffre d'affaires, j'imagine que ça vous ouvre des portes vers pas mal d'appels d'offres. Après concrètement, comment ça marche ? Comment tu négocies ton salaire ? Est-ce que tu te fais toi-même des entretiens annuels, comment ça se passe? Est-ce que tu t'augmentes souvent? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu peux t'améliorer?
Ouais, alors dans ce genre de société, il y a des accompagnatrices et accompagnateurs qui nous suivent et qui aussi ont un recul sur ce qu'on fait, qui peuvent nous conseiller. On a aussi des coachs en interne, ce qui est aussi un avantage parce que nous, des fois, on a des questions, on a des coachs sur le côté commercial qui peuvent intervenir. Et du coup, avec ces accompagnateurs et accompagnatrices, on fixe notre salaire. Le dernier mot nous appartient toujours, si tant est évidemment qu'on a le chiffre d'affaires qu'il faut pour pouvoir payer tout ça. Mais grosso modo, on prévoit et on lisse. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lisser sur l'année. Et tu vois, typiquement, l'année dernière, j'ai fait une très bonne année, ce qui fait que je sais que cette année, mon salaire, il est payé. C'est-à-dire que quoi que je fasse cette année, si je prends une année sabbatique, c'est bon, mon salaire, il est payé.
D'accord, ok.
Parce que j'ai lissé mon salaire sur l'année, que j'ai fait des économies l'an dernier, etc.
Mmh, ok. Et j'imagine bien que Oxalis ne fait pas ça gratuitement. Est-ce que c'est quoi le deal ? Ils prennent une commission ou...
Oui, il y a ce qu'on appelle une contribution coopérative. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça pourrait être long. Chaque CAE a des fonctions de calcul différentes. Nous, c'est basé sur ce qu'on appelle l'excédent d'exploitation. Donc en gros, tu prends le chiffre d'affaires, tu enlèves les frais de mission, les frais de déplacement, les frais de formation et la sous-traitance, ça te donne ce chiffre-là, et là-dessus, il y a un pourcentage qui va à la coopérative.
D'accord, ok. Ok, d'accord, mais c'est intéressant parce que moi, je connais pas trop ce type de statut, et je sais que... Alors justement, est-ce que c'est pas ça, cette complexité, tu vois, par exemple, là juste pour savoir combien tu gagnes, c'est pas forcément super simple. Est-ce que cette complexité ne nuit pas pour qu'il y ait une plus grosse adoption de ce statut ?
Bah non, parce qu'en fait, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est des charges et des cotisations comme une autre, en fait. Quand tu gères une société, t'as des dépenses. Et tu as des rentrées d'argent. Donc, cette dépense-là, ça rentre comme une dépense aussi. Donc, il n'y a aucun problème. C'est là justement où moi, je vais plus loin que le simple entrepreneur. Nous, on est quatre chez l'Hydra. On a deux associés plus deux employés. Et du coup, ça nous fait gérer un volume de chiffre d'affaires qui est un peu plus élevé que la plupart des freelances. Typiquement, l'an dernier, on a fait plus de 200 000 euros. Et donc, du coup, ça nous fait nous poser des questions sur combien ça nous coûte, où est-ce qu'on met ça. Et c'est pas juste, mon chiffre d'affaires, il est de temps, j'enlève mes charges et hop, je prends tout le reste. Il y a aussi, nous, on a des envies de développer des choses, comme je te l'ai dit, des services en ligne. Donc, il y a de l'investissement, etc. Donc, tu gères une vraie société. Hein. C'est là où, justement, et peut-être que tu penses à ce fameux statut qui est la micro-entreprise. C'est là où je pense que la micro-entreprise est problématique pour avoir une vision claire de ton avenir en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance.
Ouais, c'est, en tout cas, ça répond certainement pas au même besoin. Mais il y a un truc que, bon, évidemment, on va pas faire tout le jam là-dessus. Mais je me demandais, du coup, quand tu dis que dans l'Hydra, il y a 4 personnes, hein, c'est-à-dire qu'il y a un contrat qui vous lie entre vous, ou alors c'est chaque personne appartient à Auxalis et il n'y a pas de statut particulier qui régit l'Hydra. Comment ça se goupille?
Alors là on va rentrer dans les détails d'implémentation technique. Donc Thomas et moi, donc Thomas qui est mon associé, on est tous les deux entrepreneurs salariés. On a cette position là de pas avoir de lien de subordination avec personne au sein d'Auxalis, donc on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Et on a décidé de travailler ensemble pour créer l'Hydra. Et là, Auxalis, à chaque fois qu'il y a des coopérations comme ça, ouais, il nous demande une charte. Donc c'est exactement comme si tu rédigeais des statuts de société. Et on a écrit pendant longtemps, on a discuté tous les deux, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait ça, comment on gère notre entreprise, etc. Et les deux autres personnes qui nous ont rejoints, c'est des employés. Donc eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de dire comment est-ce qu'on va évoluer. Mais chaque freelance qui va nous rejoindre et chaque associé qui pourrait nous rejoindre, on peut revoir les règles du jeu toutes les années, par exemple.
D'accord.
Si on a envie.
Et oui, c'est ça, parce que tu disais que c'est un collectif de freelance. Donc vous êtes ouvert à d'autres adhésions, on va dire. Est-ce qu'en pratique, c'est ce que vous avez déjà fait, vous avez déjà ouvert, ou vous allez le faire, ou comment ça se passe?
Alors c'est déjà ouvert. Si les gens veulent nous rejoindre, il faut qu'ils prennent contact avec moi, tout simplement.
Ouais.
Et puis on discute. Il faut qu'on partage évidemment la même philosophie de travail, les mêmes valeurs, ce genre de choses.
D'accord. Et l'intérêt pour les gens de vous rejoindre, c'est quoi? C'est de pouvoir partager des ressources, un mindset, des clients. Vends-nous un peu le l'Hydra.
Eh ben déjà, c'est de partager l'image de marque, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'Hydra commence à se faire connaître un petit peu. C'est une des nombreuses marques qu'on a créées, puisqu'on en a créé 3 aujourd'hui.
D'accord.
L'Hydra, c'est la marque principale. C'est aussi rejoindre une manière de travailler. Donc on a écrit toutes nos procédures, on gère tout ça, on a quelqu'un qui nous aide justement à faire l'administratif, la gestion commerciale, qu'on paye pour ça. Et puis il y a l'accès à des marchés, puisque moi, avec la chaîne YouTube et le podcast, il y a plein de gens qui me contactent pour me dire je cherche telle personne pour faire ça, etc. Et des fois je peux pas répondre, parce qu'en fait nous on fait plus de prestations avec Thomas, on a plus le temps physiquement de faire de la prestation à 100% notre temps. C'est pour ça que moi je fais que du mentorat maintenant.
D'accord. Ok, on va c'est une transition parfaite pour comprendre ce que tu fais par ailleurs. Donc tu n'as plus de temps, et je vais peut-être passer la parole à Anthony, parce que je le vois mentalement trépigner. Anthony?
Oui, tu peux me passer la parole, je la prends, il n'y a pas de souci.
Et je vois.
Mais oui, c'est super intéressant tout ce que tu fais, l'administratif, les différentes boîtes, comment tu as voulu architecturer la chose. Et surtout, ce que je vois qui est intéressant, c'est quand tu dis que tu voyais déjà, avant d'être entrepreneur, tu voyais déjà la manière dont tu allais procéder aujourd'hui. Et en fait, je me dis que ton plan et ton projet de compagnon du DevOps et de mentorat et de compagnonnage, je me demande si tu le voyais déjà aussi à ce moment-là. Ou si tu envisageais d'abord de faire de la presta, et quand tu es arrivé dans la presta, tu t'es dit, en fait, on pourrait créer tout un univers.
Alors d'abord, j'ai en effet commencé à faire de la prestation avant de créer l'Hydra, hein, la prestation avec ma marque personnelle, qui n'était ni plus ni moins que mon nom et mon prénom. Puis après, j'ai rencontré Thomas au sein de la coopérative. C'est là où on a décidé de créer justement l'Hydra. Et au moment où on a créé l'Hydra, je me suis aperçu aussi, parce que moi je ne suis pas parisien, hein, je le dis assez souvent, mais je ne suis pas parisien, j'habite Saint-Etienne, donc je n'ai pas des meet-up tout le temps, je ne vais pas en conférence tout le temps, et quand j'allais en conférence, ça me manquait, entre deux conférences, tu vois, entre deux DevOps Rex, il manquait quelque chose. Et du coup, j'ai cherché, il n'y avait rien, j'ai monté les compagnons du DevOps à ce moment-là, parce que je me suis dit, c'est con qu'on ait rien pour discuter en ligne. Et donc j'ai monté cette communauté-là à ce moment-là. Les deux, en fait, l'Hydra date de début 2018 et les compagnons de fin 2018. Les deux se sont montés la même année.
Ok.
Eh ben, parlons compagnons, alors. Donc ça, c'est, on va dire que c'est en parallèle de l'Hydra. C'est où, enfin, c'est un des trois autres projets que tu maintiens. Les deux autres, on va en parler plus tard. Et donc, les compagnons du DevOps, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce que comment vous vous rencontrez? Quel est l'objectif?
Eh ben, c'est une communauté de pratique, puisque dans le DevOps, on partage. C'est l'un des cinq piliers. Hein, on partage. Du coup, on partage sur un forum. On échange, etc. Alors, j'ai choisi le forum justement pour éviter l'aspect instantané du chat et ouais. Le fait de perdre les informations, puisque à l'époque et même encore maintenant, tout le monde va sur Slack. Sauf que sur Slack, au bout d'un moment, tu perds les informations, t'es inondé par le bruit. Et en fait, avec le recul, et aujourd'hui, le forum était le bon choix parce que les discussions sont vraiment hyper pertinentes, hyper claires. Il y a des gens qui posent des pavés, je ne vous mens pas, de 5-10 paragraphes pour expliquer des choses et faire des retours d'expérience.
D'accord.
Il y a ça, il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube autour des compagnons. Et les compagnons, en fait, c'est un projet entrepreneurial pour moi, pour transmettre aussi mon savoir, puisque le business model, c'est je veux vendre des formations et du mentorat au travers de cette marque. Donc, je fais tout ça pour justement montrer ce que je sais faire. Et là, cette année, je mets les bouchées doubles pour sortir des formations et du mentorat. Et que je teste depuis quelques temps avec certaines personnes en comité restreint. Et là, j'arrive à une manière de faire mes mentorats qui me convient. Et comme le dit Anthony, le nom aussi, les compagnons du DevOps, c'est pas anodin parce qu'il y a le concept de compagnonnage qui me tient énormément à cœur. Le fait de transmettre son savoir à quelqu'un au travers du compagnonnage. Et je trouve que en fait, c'est une super idée. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en informatique. Du coup, on va le faire, nous.
Pour être honnête, moi, je t'ai connu. Je crois que j'étais tombé sur une vidéo à toi sur YouTube. Et ensuite, j'étais parti sur le site des compagnons. Et il y a une autre vidéo qui explique un peu quelle est ta manière de voir le compagnonnage, l'apprentissage, la transmission de connaissances. Et aussi, il y a un petit texte qui va avec. Et franchement, j'invite tout le monde à aller le lire parce que oui, c'est vraiment du bon sens. Sur comment est-ce qu'on devrait transmettre et comment est-ce qu'on devrait faire évoluer notre secteur.
Du coup, dans Compagnon du DevOps, il y a DevOps. Hein. C'est forcément maintenant qu'on va parler de DevOps. Hier, pendant le dry run, tu me disais... J'ai eu le malheur d'utiliser DevOps à mauvais escient et tu m'as donné une petite tapette sur la main. C'est quoi pour toi DevOps?
Alors DevOps, c'est avant tout un mouvement. C'est un mouvement et une philosophie qui aide en fait les gens d'une entreprise informatique à atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est comme ça que je le résumerai. Alors j'ai une définition qui est très très bien faite que je donne dans mes formations que j'ai plus en tête exactement. Mais pour moi c'est ça, c'est faire coopérer les gens des équipes informatiques ou pas hein, d'ailleurs, puisque moi je projette le DevOps dans toute l'entreprise pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Et c'est vraiment un mouvement, c'est-à-dire tu fais communiquer les devs et les ops de manière extensive, tu fais communiquer les gens de l'entreprise et tu fais de l'amélioration continue dans ton entreprise.
Ouais, ça rappelle quand même pas mal l'agilité, non, dans ce sens-là.
J'aurais plutôt dit le software craftsmanship, moi, mais...
Ouais, bon.
J'en parle d'ailleurs dans mes formations des deux mouvements, parce que... Le DevOps, c'est un mouvement qui vient particulièrement des Ops, et c'est comment est-ce qu'on applique l'agilité à l'Ops. Au début même, ça s'appelait l'infrastructure agile, il y avait un groupe Google à l'époque qui parlait d'infrastructure agile, après il y a eu une conférence, et le mot DevOps est apparu, mais du coup c'est vraiment l'idée que... les ops, ils veulent mettre de l'agilité, et du coup, après, forcément, ça dérive de l'agilité, parce que l'agilité a apporté pas mal de choses dans le mouvement du développement, dans le monde du développement.
Oui. Et donc, évidemment, on est loin de la caricature dont ça a emparé notamment les recruteurs, hein, finalement, où on voit beaucoup d'offres qui concernent des DevOps. Donc pour toi, j'imagine, ça n'a aucun sens, recruter un DevOps.
Le souci, quand tu recrutes un DevOps, on en parle parfois dans les podcasts, tu vas recruter une personne qui va faire quelque chose. Ce quelque chose étant indéfini, parce que aujourd'hui, j'ai beau regarder et chercher ce que font les DevOps, ils font plein de choses. Ils font soit du dev, soit de l'ops, soit de l'intégration continue. Souvent, c'est de l'intégration continue, du déploiement continu, mais pour moi, c'est pas ça l'essence du DevOps. C'est vraiment un tout et un ensemble de pratiques et d'idées. Et en fait, le problème de recruter un DevOps ou même par extension de créer des équipes DevOps, c'est que tu vas pas régler ton problème de fond qui est tes devs et tes ops, ils ont du mal à communiquer entre eux.
Ouais, c'est ça, en fait. Ça peut pas marcher si la culture est pas intégralement absorbée par toutes les équipes, quoi. Toutes les parties prenantes de l'équipe. Donc, dev et ops.
Exactement. Et c'est un mouvement qui est transverse pour moi. Il doit être accepté et partagé par les devs et les ops.
Ouais. Pour moi, quand même, alors moi aussi, hein, du coup, hein, j'ai travaillé au moment du bug de l'an 2000 et même avant. Donc, je crois que je suis un peu plus vieux que toi. Et ce que j'ai pu en voir, moi, depuis que je bidouille sur un clavier, c'est enfin, quand on m'a expliqué finalement que les DevOps c'était de travailler en bonne intelligence avec des devs et au-dessus. Donc à la fois le product owner s'il y a un product owner, project manager s'il y a un project manager. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire bah ça a toujours existé en fait. Moi j'ai toujours travaillé comme ça, parce que j'avais la chance de travailler dans des petites structures où finalement il y avait pas de strat. Du coup j'ai toujours considéré moi personnellement le mot DevOps comme un buzzword. Est-ce que c'est pour toi toujours un buzzword ou est-ce que c'est moi qui me fourvoie complètement?
Bah tu le dis toi-même, t'as pas travaillé dans des grosses entreprises. Hein. Moi j'ai travaillé dans toutes les grosses, presque toutes les grosses, tous ouais. Les grands comptes. J'ai fait un burn-out, hein. je le raconte des fois, mais j'ai fait un burn-out parce que les méthodes de travail étaient complètement... elles allaient à l'encontre même du bien-être humain et à l'encontre même du... Comment dire, du bien-être de l'entreprise aussi. C'est bon, il n'y a pas un bien-être dans l'entreprise, mais tu vois, l'idée elle est là. Mm-hmm. C'est pas un buzzword parce que dans les grosses entreprises, et on commence à avoir les problèmes dans les grosses entreprises, parce que dans les petites, en effet, il n'y a pas de problème. Mais dans les grosses entreprises où tu as des services, tu commences à avoir les problèmes. Parce que tu as des services avec des objectifs différents et donc tu as des problèmes d'incompréhension parce que ton dev, il a un objectif, c'est livrer rapidement et ton ops, il a un autre objectif, c'est assurer la stabilité du système d'information. Et donc, ils peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas se comprendre. C'est pas un buzzword. Hein. C'est contrairement au DevSecOps qui est un vrai buzzword. Si vous voulez, on peut taper sur DevSecOps. Hein. Mais le DevOps n'est pas un buzzword.
Michel n'est pas d'accord, on dirait. Mais je reste là-dessus parce que moi, j'ai pu le constater parce que j'ai fait aussi des missions dans des moyennes entreprises, hein, 4000 personnes. Et ce que j'ai vu, au final, c'est qu'il y avait quand même et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un buzzword, c'est que ces sociétés de services vont vendre des équipes DevOps à leurs clients, parce que DevOps c'est connu du client, c'est comme l'agilité, même s'ils savent pas trop vraiment de quoi ça parle, et qu'au final, pour avoir travaillé avec ces équipes DevOps, on constatait des silos, les mêmes silos, quoi, c'est-à-dire le dev qui a poussé un truc, ça marchait chez lui, ça marche pas évidemment sur la plateforme Target. Et c'est dans ce sens-là où je me dis que quand même, pour certaines boîtes, ça reste plus un tampon, et une marque comme l'agilité qui leur permet de vendre des services qui ne sont pas forcément mis en œuvre.
Ouais, c'est très juste. Justement, d'ailleurs, dans l'actu DevOps qui devrait sortir la semaine prochaine, on parle de... Ça va peut-être pas faire plaisir à Michi, mais on parle des Suisses qui sont déçus par le DevOps, puisqu'il y a eu une enquête en Suisse qui parle des entreprises qui sont déçues par les promesses du DevOps. Et justement, on en parle dans le podcast, mais grosso modo, si tes objectifs ne sont pas bien définis et si tu appliques juste un des cinq piliers DevOps, qui est l'automatisation, c'est pour ça qu'en fait t'embauches des DevOps, c'est pour appliquer le pilier automatisation, et bah tu perds les autres piliers et tu perds ton objectif, et du coup t'as pas tes équipes qui travaillent ensemble, t'as juste automatisé des choses.
Ouais, t'as un mec qui bosse sur l'automatisation et qui s'assure que les runners tournent et que machin, que ça pète pas et tout ça, il est content, il a fait son petit truc, mais il y a pas l'osmose avec les devs et une cohérence de bout en bout, quoi. C'est ça que tu veux dire.
Ouais, et je vais pas taper sur les SS2I, mais un petit peu quand même, mais à un moment donné, quand tu veux avoir un accompagnement poussé, est-ce que tu vas faire confiance à des entreprises dont le métier c'est de te vendre du prestataire au kilomètre, ou est-ce que tu vas aller chercher des indépendants un peu plus spécialisés dans ce qu'ils font? Moi, je sais pas, hein. Je vous laisse réfléchir, mais penchez-vous plutôt sur les gens qui créent du contenu et qui explorent un peu les choses, ou les indépendants qui créent pas du contenu, mais en tout cas les gens qui sont passés à droite à gauche, quoi, pour voir comment ça se passait dans les entreprises.
Alors, Miché a envie de dire quelque chose, hein. Je t'invite.
Oui, alors c'est bien parce que là, je vais pouvoir voir les réactions de Christophe en direct avec un petit décalage. Je veux revenir sur deux points. Le DevSecOps, c'est une discussion entre nous depuis quelques semaines. Je suis pas d'accord avec toi parce que pour les mêmes raisons que tu invoques pour le Dev et l'Ops et les problèmes d'alignement des objectifs, il y a ça aussi avec la sécurité au sein des entreprises. Classiquement, les teams sécurité, si on veut, sont vus comme des emmerdeurs par le reste des équipes et des gens qui empêchent de faire des trucs et tout. Et je considère que le DevSecOps, bon, bien sûr, au final, l'idée, c'est que tout soit rassemblé dans le DevOps, mais bon, en chemin, je considère que le DevSecOps est là pour essayer d'aligner aussi les équipes sécurité sur l'objectif de l'ensemble de l'équipe et pas être les emmerdeurs qui sont là à mettre des blocages partout et qui empêchent les devs et les ops de faire leur boulot. Donc, c'est pour ça que je considère que DevSecOps n'est pas tout à fait un buzzword dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre les équipes sécu et les aligner avec le reste de l'équipe. Et la Suisse, j'ai vu cet article. Disons qu'il y a beaucoup d'entreprises suisses qui sont un peu à la papa et qui ont effectivement un peu de mal à changer leurs habitudes et qui prennent DevOps comme un buzzword, effectivement, juste pour l'automatisation. Il y a même des grands comptes qui font ça et qui ont des équipes DevOps spécialisées séparées du reste. Donc bon, bref. Mais ça change petit à petit. Je ne serai pas aussi négatif que ça. Voilà.
Ouais. Je vais préciser pour le DevSecOps. Je suis d'accord avec Michel sur le fond, pas sur la forme. Pour moi, parler de DevSecOps, ça a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est considérer les équipes sécurité comme des équipes qui ne sont pas des ops comme les autres. Pour moi, ça, c'est un vrai problème de fond. La sécurité, ce sont des ops comme les autres pour moi. Au même titre que dans les devs, en fait, tu as les devs front, les devs back, les devs... Enfin bref, et dans les ops, tu as les DBA, les admin sys, les admin cloud, la sécurité. La deuxième chose... ça veut aussi dire quand tu prônes le DevSecOps que dans le DevOps t'as pas de notion de sécurité d'amélioration continue, et pour moi ça c'est un vrai souci de conception. Par nature, le DevOps il prône l'amélioration continue et les bonnes pratiques, et la sécurité fait partie de ces bonnes pratiques. C'est pour ça que le DevSecOps n'a pas lieu d'être, parce que tout ce que prône le DevSecOps c'est déjà dans ce que moi j'entends dans le DevOps.
Oui, je suis assez d'accord. Sur cette analyse-là, je suis assez d'accord. Après, c'est une histoire de compréhension de la plupart des gens. Et je pense que le terme est né de ce manque de compréhension. Après, à terme, tous les termes vont changer. Donc, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, dire DevOps sans DevSecOps, si on se met à la place de l'ensemble des gens du métier, beaucoup supprimeront le sec de DevOps, comment dire, beaucoup n'auront pas conscience de la nécessité de sécurité dans le flux DevOps. c'est mon avis. Après, bien sûr, le tout change. Hein.
Ouais, bah alors je suis assez d'accord et c'est pour ça que il faut en parler. Hein. La sécurité, c'est hyper important hein, quand on travaille et pas que quand on fait du DevOps. Hein. La sécurité, ça doit être une préoccupation majeure, au même titre que l'écologie d'ailleurs.
Ok, on remercie Miché que je remets dans sa petite boîte. On va rester dans la thématique DevOps. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait que l'automatisation pour toi c'est le premier pilier du DevOps. Quels sont les autres piliers à ton avis?
Alors c'est pas le premier pilier, c'est le pilier que tout le monde voit. En fait on a un acronyme qui est CALMS et pour s'en rappeler vous imaginez un t-shirt sur lequel il y a marqué Keep CALMS and Do DevOps. Ou Keep CALMS en Follow DevOps. Alors CALMS, c'est la culture pour le C, l'automatisation pour le A, c'est celui que voit tout le monde parce que c'est celui qui permet d'aller plus vite, plus rapidement pour avoir des résultats. Tu as aussi le Lean pour l'amélioration continue. Le M pour la mesure, puisque tu vas mettre en place des outils de mesure, parce que tu ne peux pas améliorer des choses si tu ne mesures pas. Et en fait, le S, c'est pour le share en anglais, et en français, je le traduis par la solidarité. C'est le partage en fait, des connaissances ou de la culture, et on revient sur le premier pilier, en fait.
Ouais. Je me ferai l'avocat du diable, mais c'est super joli, quoi. C'est super. On a envie d'y croire, mais... Moi, j'ai vu aucune boîte qui travaillait comme ça, quoi. Alors, j'ai sûrement tombé sur toutes les mauvaises boîtes. Ou alors, c'était pas à la mode. Mais, est-ce que toi, tu vois, tous ces principes réunis dans une même équipe? Ou est-ce que justement, tu as constaté que c'était pas le cas? Et c'est aussi pour ça que tu fais du mentoring?
Bah, déjà, la première chose, c'est que le DevOps, c'est pas répandu en Europe et encore moins en France.
Ouais.
La première chose, c'est ça, c'est de voir qu'en fait, déjà, rien que le cloud n'est pas répandu, le DevOps n'est pas répandu. Donc, on a tout un travail, en fait, de transition des entreprises. Ensuite, je crée du contenu et je prône un idéal, évidemment, parce que c'est celui que je veux atteindre.
Ouais.
Et je fais aussi des formations théoriques, donc je suis obligé de parler de tout ça. Après... je prône aussi que chacun trouve sa voie dans le DevOps. C'est-à-dire que tu connais la théorie, mais tu vas arpenter ton chemin différemment que ton voisin. Tu as peut-être un objectif différent ou même le même, mais par contre, les chemins, bah, c'est comme dans une forêt. Hein. Tu peux partir à droite, à gauche, mais au final, tu vas arriver là où tu vas arriver. L'objectif étant de garder ça en tête, et puis c'est pas facile. Hein, s'améliorer en continu tout le temps, enfin, avoir tous ces préceptes-là, c'est pas facile, ça se travaille au quotidien.
Est-ce que, je poserai la question un petit peu différemment, est-ce que dans tes missions, combien de fois tu as pu constater que c'était des principes qui étaient bien suivis?
Ça dépend des entreprises en fait. Plus elles sont petites, plus elles le suivent, et plus elles sont grandes, et moins elles le suivent. C'est pour ça que j'aime pas. En fait, moi, j'accompagne pas des grandes entreprises, j'accompagne des équipes dans les entreprises. Et je suis assez partisan de montrer à une entreprise au travers une équipe projet que ça peut fonctionner pour qu'après, eh ben, elle diffuse en fait la culture au sein de l'entreprise.
Mmh. D'accord. Est-ce que t'as d'ailleurs, est-ce qu'il y a des prérequis toi quand t'arrives en tant que mentor DevOps, hein, quand t'arrives dans une société? J'imagine que un des prérequis quand même, c'est de pouvoir travailler avec des devs qui sont agiles. Est-ce que tu peux rentrer dans une société qui travaille en mode tout cradouillou, non agile, ou est-ce que tu arrives à les accompagner malgré tout, si c'est le cas?
Non, je n'y vais même pas. En fait, quand une entreprise elle me contacte, si je lui demande déjà si elle est agile, si elle n'est pas agile, je lui dis commencez, faites votre transition agile et revenez me voir après. Parce que moi, je suis pas mentor agile, hein. Moi, je suis mentor DevOps. L'agilité, je connais, hein, mais c'est un autre métier d'accompagner les équipes de dev à faire de l'agilité.
Mmh. Ah ouais, d'accord. C'est là où je me tourne généralement vers Anthony, qui est bien silencieux aujourd'hui. C'est étrange.
Je suis pas content. Je sens que je vais me faire remplacer. Je suis pas content. Non, je rigole. En fait, tu nous as dit qu'un des gros piliers, et qui n'est pas le plus gros pilier, mais c'est le plus visible, qui est celui de l'automation. Et en fait, l'automation, c'est parfait pour entrer sur une autre de tes activités, qui est celle de ton usine logicielle que tu mets en place pour l'humanité tout entière et pour la souveraineté de chacun. Donc, je pense qu'on peut passer sur le sujet Frogit. Et si moi je devais présenter rapidement Frogit, vous prenez un GitLab, vous le mettez à jour le plus souvent possible, vous le mettez en Europe, et vous prévoyez que l'usine logicielle française va avoir un éclat à un moment donné, et que tout le monde va se rendre compte qu'en fait ils sont en train de stocker leur code, qui est peut-être la ressource la plus importante, chez des Américains. Ou chez les Chinois, ça dépend du point de vue de chacun. Mais voilà, Frogit, c'est une usine logicielle faite par l'Hydra, il me semble, et je te laisse continuer pour nous la présenter.
C'est ça, c'est nous qui l'opérons. Ça va plus loin hein, qu'un simple GitLab, parce que, outre le fait qu'on a en effet le laboratoire, le GitLab, on a aussi évidemment les runners, qui tourne, puisqu'il faut fournir l'intégration continue. On a aussi mis en place les pages, donc les GitLab pages, puisqu'on a nos Frogit pages, et puis surtout on a un chat, un outil de communication, on a ajouté Mattermost, et le tout est avec une authentification unique. Là pour l'instant on est en bêta, mais on veut rajouter à terme des nouveaux services à chaque fois à Frogit, et en effet l'idée c'est de nous rendre souverains sur l'hébergement du code. Parce que clairement quand j'ai en 2019 c'est ça 2019 il y a eu l'embargo des États-Unis sur l'Iran où il y a un développeur iranien qui nous expliquait qu'il n'arrivait plus à accéder à son code source qui était hébergé chez GitLab parce que il était sous embargo et que donc il pouvait plus accéder à GitLab, il pouvait plus accéder à Docker, il pouvait plus accéder au Times, enfin à d'autres services américains. Je me suis dit mais merde, qu'est-ce qui nous arrive si ça arrive en France? Pareil. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ouais, en fait, on peut faire quelque chose. Moi, j'avais déjà l'habitude d'opérer du GitLab. Donc, j'ai regardé, est-ce qu'il y a des alternatives en France? Pour les professionnels, hein, j'entends. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on en fait une? J'en ai parlé à mon associé. Je lui ai fait une petite note d'opportunité avec un étude de marché. Il m'a dit, OK, on a lancé les inscriptions pour la bêta. Quand on a eu 100 bêta testeurs, on a lancé le travail pur et dur. Et puis aujourd'hui, on a une bêta qui tourne avec plus de 450 bêta testeurs et bêta testeuses.
Nice.
Si je voulais résumer, c'est le GitHub, GitLab souverain français.
C'est ça. Pour l'instant, notre marché, c'est la France. Demain, ce sera peut-être l'Europe. Mmh. Mais déjà, si on arrive à obtenir pas mal de clients en France, ce serait bien. Hein.
Ouais. Et est-ce que vous allez avoir une attention particulière au projet open source?
C'est dans nos objectifs. On a en vision l'éducation à l'open source.
Ouais.
On ne sait pas encore comment, parce que déjà il faut sortir de la bêta, il faut rembourser un peu nos investissements et puis il faut être rentable. Mais on sait qu'on veut aider l'open source et le libre en France.
D'accord. Donc objectif premier quand même, c'est faire des sous-sous.
L'objectif premier, c'est si l'entreprise elle n'arrive pas à vivre et à payer le service, forcément, tu ne vas pas mettre de l'open source dessus, quoi.
Ouais. Deuxième objectif, c'est de résoudre le problème de la souveraineté et des données et du code. Et si possible, aider les autres projets open source par la même occasion.
Exactement. Alors la souveraineté du code, on y arrive et a priori, on est complètement souverain.
Et vous êtes hébergé chez qui?
On est hébergé chez Scaleway pour le service et pour les backups Scaleway et OVH.
D'accord. Scaleway qu'on connaît très bien, n'est-ce pas, Anthony?
Tout à fait. Deux paires de chaussettes.
Scaleway. Enfin, Anthony, il ne sait pas prononcer, mais c'est Scaleway. J'avais une petite question. Ouais, vous êtes en bêta, ça veut dire que vous avez développé énormément de trucs au-dessus de GitLab ou qui nécessite un temps de bêta testing assez long.
Alors ouais, là c'est le moment où je te dis qu'en fait héberger un GitLab, c'est juste pas faire apt-get install sur ton serveur Debian, c'est aussi le maintenir, le tuner, donc c'est-à-dire le configurer correctement, faire que tous les services se parlent entre eux correctement. Typiquement, quand tu mets en place GitLab, les GitLab pages, le chat, etc., tu as plein de configurations à mettre en place. Suivre les évolutions tous les mois de GitLab, les dépréciations, l'appliquer sur ton infrastructure. Et le tout, évidemment, parce que bon, je prends le DevOps, on fait de l'infrastructure as code, ça veut dire que Frogit, si demain il tombe, si ce que je ne souhaite pas à Scaleway, hein, mais si le data center sur lequel on est, il flambe, on prend notre infrastructure as code, on change la région, on relance tout, et au bout de quelques heures, on a Frogit qui est revenu.
Mmh. Ça, c'est toujours un grand moment de satisfaction quand ton DRP fonctionne bien, c'est sûr. Et d'ailleurs, vous l'avez testé ? Vous avez pu tester déjà, j'imagine ?
Alors, on a testé le rechargement des backups.
Ouais.
Ça fonctionne bien. On n'a pas encore testé le fait de partir d'une région à l'autre, mais ça, on va le faire bientôt parce qu'on va changer de data center chez Scaleway. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, notre solution est hébergée sur le DC3, qui est le data center, je ne sais plus, mais on veut aller vers le DC5, le data center sans climatisation de chez Scaleway. Ça, on le fera dès qu'on aura lancé l'offre commerciale parce que les machines sont un peu plus chères et du coup, si on le fait tout de suite, on va juste tuer encore plus notre trésorerie.
Ok. Roadmap, du coup, c'est l'ouverture en general availability pour quand ?
On ne sait pas. Alors, tu disais, est-ce qu'on a développé d'autres trucs ? Alors oui, on développe d'autres choses. Notamment, moi, je développe un outil qui permet de sauvegarder en fait tous tes projets et groupes sur GitLab. Et mon idée, c'est l'idée du SaaS libre, on pourra peut-être en parler, c'est de fournir à nos clients les sauvegardes complètes de leurs données sur GitLab, qu'ils n'aient pas à le faire eux-mêmes. Et ils auront des projets qui tournent comme ça, qui vont leur sauvegarder leurs projets et les fournir en artefacts. Et peut-être à terme, ils pourront nous fournir un bucket S3 et on pourra envoyer leur sauvegarde dans le bucket S3.
Mmh. Yes. Puis j'imagine l'intégration Mattermost aussi, ça nécessitait un peu de dev. Ou c'est un truc, c'est vraiment à part. Hein. C'est pas un GitLab.
C'est facilité par GitLab et ça demande quand même un petit peu de tuning aussi parce qu'il faut qu'on interconnecte des choses. Mais notamment les certificats SSL nous ont fait beaucoup suer. Mmh. Parce qu'on a plusieurs serveurs, donc il faut qu'ils s'interconnectent et tout. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais... Mmh. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir en général availability. Probablement ce semestre, mais on ne sait pas quand exactement. Là, on travaille sur la prise de commande.
Ah, d'accord. Ok. Les sous-sous. Donc, faut pas
ouais, les sous-sous. C'est sous-sous. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un moment où ça fait plusieurs mois qu'on a 100% d'uptime.
Yes.
Et que les mises à jour, elles se passent très bien, que tout se passe bien. On fait encore évoluer la solution. On a encore plein de trucs. Mm. Mais on va arriver, je pense, on va arriver en ce semestre à passer ça pour la prise de commande, en fait.
D'accord. Alors vous avez mis avant tout de la ressource sur la fiabilité. Maintenant vous êtes content. Vous sentez que ça sent bon et il n'y a plus qu'à rajouter le mode paiement pour prendre des premiers clients. Donc pour ceux qui connaissent, est-ce que des personnes peuvent encore s'inscrire sur la bêta ?
Bien sûr, elle est encore ouverte, hein, elle est toujours gratuite.
Quoi l'URL ?
Déjà, vous pouvez aller sur frogit.fr et passer sur s'inscrire. Sinon, vous tapez beta.frogit.fr directement dans un navigateur et vous devriez tomber dessus.
D'accord. Frogit, c'est bien F-R-O-G-G-I-T.
Oui, c'est Frog Git. C'est Git pour les grenouilles.
Yes ! J'avais pas compris. Ah, il est con. Anthony, vas-y, bâche-moi.
Non. Je vois que tu t'as une petite latence pour capter les blagues. J'aime bien.
C'est tout ? C'est tout ce que tu voulais dire ?
Tout à fait.
Oh putain, ça, je me sens super idée. Hein. Donc ça, c'est ton premier SaaS, super intéressant. On va surveiller de près quand il sortira. J'imagine bien que tu vas communiquer dessus. En tout cas, c'est heureux de voir qu'une solution comme la tienne va voir le jour. Effectivement, ce sera... Ah oui, voilà, c'est ça, j'avais une autre question, juste pour terminer sur le sujet. Pourquoi vous êtes parti sur GitLab ? Il n'y avait absolument aucune autre alternative à GitLab ?
Alors, probablement, si. Mais moi, ça fait longtemps que je travaille avec GitLab. puisqu'il y a eu quand GitHub a été racheté par Microsoft, je travaillais déjà avec GitLab, mais j'ai fait ma migration complète à ce moment-là. Et dans les solutions libres et open source, GitLab était celle qui était la plus complète, apportait c'est le clair. Plus de choses au niveau intégration, au niveau ergonomie et puis surtout l'intégration continue de GitLab. Enfin, je veux dire, on aurait pu en effet faire d'autres choix. Nous, on a choisi de partir sur GitLab et on pense qu'on a fait le bon choix. En tout cas, il est assez reconnu. L'intérêt aussi, c'est que les gens qui sont déjà sur GitLab.com vont pouvoir venir chez nous facilement.
Oui, ils ne seront pas perdus du tout.
Exactement.
Ouais, ouais. Ouais. Ils pourront même apporter leur projet, j'imagine, sans problème.
Bah, le truc, c'est aussi que GitLab, c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment complet. Moi, de ce que je vois dans mon radar en solution Git, bah, ça fait surtout Git, en fait, souvent avec des petits sites internet un peu pétés, avec des designs des années 90, on a un Git et on est content, et on peut faire un Git push, un Git pull, etc. Alors que GitLab, on est vraiment sur une solution complète, où on peut tout gérer en, avec le serveur web, on a un CI/CD dedans, alors que même quand GitHub est sorti, au début, il n'y avait pas de CI/CD, il fallait un tiers. Donc vraiment, c'est très complet, et c'est backé quand même par une grosse compagnie, qui se permet de faire beaucoup de mises à jour, beaucoup de features, beaucoup d'améliorations toutes les semaines. Donc GitLab, c'est pas un produit lambda, c'est vraiment un as, quoi, j'ai envie de dire.
Alors du coup, on, grâce à ce sujet-là, on a abordé la souveraineté, et il me semble que c'est vraiment un truc qui tient à cœur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu t'investis là-dedans?
Ben oui, ça me tient à cœur depuis un petit moment quand même, notamment au niveau législatif, parce que quand on parle de souveraineté numérique, la plupart des gens entendent et pensent autonomie numérique. Moi, c'est le côté législatif qui m'intéresse, l'autonomie numérique aussi énormément, mais pour moi, elle dérive du côté législatif. En gros, c'est dans notre cyberespace. En tant que citoyen français, je veux être soumis aux lois françaises. Je veux pas être soumis aux lois américaines, aux lois chinoises, aux lois russes, aux lois, je sais pas moi, asiatiques. Comment ?
Ouzbek.
Tu vois, moi, je vis en France, je fais des choses en France et je veux être soumis aux lois. En tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise, pareil. Je veux pouvoir être soumis aux lois. Aujourd'hui, toutes les startups et toutes les entreprises qui posent leurs applications chez Amazon Web Services, Azure ou autres, elles sont en partie soumises aux lois américaines. Pour moi, c'est un problème stratégique en tant que nation. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais du coup, c'est important de prendre en main sa souveraineté. Et la seule manière aujourd'hui de prendre en main sa souveraineté, c'est de mettre ses applications dans des data centers qui appartiennent à des sociétés qui sont de droit de ton pays. Donc, de droit français pour nous, la France, de droit suisse pour les Suisses. Mais l'idée est là.
Ouais, ouais. Et c'est aussi pour... Ah pardon, excuse-moi.
Vas-y. Ouais, je pousse un peu parce que la semaine dernière, on a vu quand même... la CNIL dire à un hébergeur, ben voilà, vous utilisez Google Analytics, vous êtes hors la loi vis-à-vis de la RGPD. Donc les choses sont en train de bouger jusqu'au jour où on va s'apercevoir que vous hébergez vos données chez Amazon Web Services, vous êtes hors la loi vis-à-vis de la RGPD.
Oui.
Ce que je pense, parce que pour moi les deux lois sont incompatibles, tant qu'il n'y aura pas une discussion entre les États-Unis et l'Europe pour mettre à jour ces deux lois pour qu'elles soient compatibles, pour moi, elles ne le sont pas, elles ne sont pas compatibles.
La deuxième américaine étant le Cloud Act.
Ouais, tout à fait. Je n'ai pas parlé du Cloud Act, mais c'est ça.
Et en attendant, du coup, toi, avec ton petit bâton de pèlerin, tu montes des services en France, donc on a vu Frogit, mais il me semble que tu en as d'autres également, notamment un à base de Nextcloud.
Exactement, c'est ça. Non, le bâton de pèlerin, c'est bien. Dire que les choses vont pas, c'est bien, mais il faut montrer aussi la voie. Donc, il faut faire des choses et il faut prouver que ça marche. On est plusieurs en France à prouver ça. En effet, l'autre service en ligne qu'on monte, qui s'appelle actuellement Boîte à outils, mais c'est pas son nom définitif, c'est un ensemble de solutions qui vont permettre aux entreprises de coopérer, de collaborer en fait directement en ligne. Notre idée étant de fournir complètement le système d'information d'une société au travers d'un navigateur, avec des outils en ligne libres et qui communiquent, et avec une authentification unique.
Mmh. Et là, le marché n'est pas un peu bouché dans ce domaine-là? Il y en a pas mal de produits qui font ça, tout simplement.
Bah, on a notre étude de marché nous prouve que non, parce que les outils les plus complets aujourd'hui, c'est Google Workspace peut-être. On a aussi Zoho Project qui propose un ensemble de solutions. On a aussi, on a Office 365, mais encore que Office 365, je suis pas sûr qu'il y ait un ERP dedans. Nous, notre objectif, c'est de fournir des outils de collaboration, un ERP, un chat, un hébergement de mail, un hébergement de site, enfin, la plupart des outils dont tu as besoin dans une entreprise.
D'accord, ok. Et donc là, vous partez sur un patchwork de logiciels open source que vous allez bundle together
ou, Exactement, et c'est pour ça que là, on va avoir pour le coup, c'est un gros projet, hein. c'est pas Frogit, c'est un petit projet à côté. Là, c'est un gros projet où justement, on veut les faire communiquer, les interconnecter avec un LDAP, on veut pouvoir que les données d'un logiciel, ils communiquent avec les données d'un autre logiciel. Je te prends un exemple, tu vas dans ton ERP, tu crées un contact client, et ben, il faudrait qu'automatiquement, il soit pouf dans ton annuaire de contact Nextcloud, par exemple.
Oui, bien sûr. Et donc, la base, c'est vous partez sur Nextcloud et vous lui développez des plugins, c'est ça?
Alors, pour l'instant, la base, c'est du Nextcloud. Et donc, déjà, on essaye d'envoyer Nextcloud dans des solutions comme Kubernetes. Ouais. Et de le connecter à un LDAP dans un premier temps. Et après, on va connecter d'autres outils et on va travailler sur le développement, ben, les évolutions, comme je t'ai dit.
D'accord. Et ça, c'est un projet, donc vous en êtes à quel stade?
Et ben pour l'instant, on est au stade où il n'y a pas de LDAP dans notre solution. C'est pour ça qu'on le vend encore sous son ancien nom.
Ouais.
C'est boîte à outils. Ce truc-là, on n'arrive pas à se caler. Ça veut dire que, contrairement à Frogit, où tu prends la commande tout en automatique, tu as ton espace qui est créé, enfin, il n'y a pas de problème. Ouais. Là, il y a encore des interventions manuelles et ça nous demande encore justement ces interventions manuelles-là.
D'accord.
Donc, quand on sera capable de se caler et de pouvoir prendre la commande automatiquement, on va changer de nom et y aura des services en plus.
D'accord. Donc, super. C'est encore un autre projet à suivre. On en a marre, Christophe. On va être obligé d'être rivé à ton compte YouTube ou à ton compte Twitter pour savoir ce qui se passe.
À mes comptes YouTube.
Oui, certainement. D'ailleurs,
j'ai deux chaînes.
Et je vois qu'il est 14h et qu'on n'a toujours pas parlé de ton dernier projet. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier chronologiquement parlant, mais c'est celui dont on ne devait pas parler et qu'on va parler. C'est un autre SaaS qui n'a rien à voir avec la tech, si j'ai bien compris.
Eh bien, on vient d'en parler, ouais.
Ah, d'accord, c'est lui. Non.
C'est lui, c'est la boîte à outils.
Ah, c'était la boîte à outils, d'accord.
Ta-da-ta-da.
Je croyais pas que c'était ça. Je croyais que
c'était... Bah, deux SaaS, ça suffit, on va pas en mettre un troisième quand même.
Oh, nul.
Le gars, il a deux bras, quatre têtes.
Ça va. Mais c'est pas plus mal, comme ça nous permet d'être à l'heure. Alors, ah, mais je croyais qu'il y avait un autre projet. Eh ben non, eh ben, écoute, je suis un peu déçu, mais pas tant que ça. Finalement, c'est déjà pas mal, t'as raison. Donc j'arrive au moment où il faut dire merci. Je vais dire merci à l'audience d'abord. Bon, là on a que Michel, pardon. Ça y est, j'ai dit putain merde dans ma phrase. C'est pas grave. Merci Michel. Merci aux auditeurs sur ta chaîne YouTube. Merci, un grand merci à toi Christophe, parce que c'est pas évident de parler de soi, je trouve. Non?
Et surtout quand on est introverti, oui. C'est pas évident.
C'est pas évident.
C'est plus facile au travers un écran. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais je pense qu'il y a beaucoup d'introvertis sur YouTube et c'est plus facile en fait parce que tu vois pas les autres personnes, puis physiquement elles sont pas là, elles te pressent pas forcément. C'est dur quand on est introverti. Je sais pas si vous êtes introvertis tous les deux, mais c'est dur de parler en public.
Ouais, bon, je te rejoins là-dessus. Hein. Je transpire énormément et après je dois prendre des douches.
Oui. Oh, moi ça va, je peux dire n'importe quoi, n'importe où. Ça me...
Oui, voilà. c'est lui qui, c'est un peu, tu sais, comme c'est un peu mon doudou. Il me calme, me permet de des conneries et de paraître détendu.
Alors, si je peux me permettre, juste, il y a une question intéressante sur mon chat. On nous demande, on est sur quoi comme équipe de dev? C'est vrai que je l'ai pas dit, mais on a pour la particularité de n'être que des ops. On n'a pas de développeurs pour l'instant. Alors, en effet, on prend des stagiaires de temps en temps en développement, mais un jour, on intégrera des développeurs, mais pour l'instant, on n'est que des ops. On fait que de l'automatisation de l'infrastructure.
Sur l'Hydra, tu veux dire? Ouais.
Sur l'Hydra et sur les SaaS.
D'accord, ok.
C'est pour ça qu'aussi, on se base sur des logiciels libres, parce que on développe le côté infrastructure.
Ouais. Il n'y a pas un petit pouillem de dev quand même qu'il va falloir faire pour le deuxième SaaS, hein?
Ah bah si, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on prendra des devs, mais pour l'instant, non.
Ok, pas d'autres questions?
Non. Je sais pas, Anthony, il a peut-être des questions, on n'a pas entendu. Il n'y a plus d'instant Anthony, il doit être frustré, je pense.
Non, mais je vois le remplacement arriver. Je te remercie, Christophe. C'était super intéressant de t'avoir aujourd'hui. Et je pense qu'on va te réinviter parce que tu as trop de trucs et qu'il faut qu'on parle de tous tes trop autres trucs, en fait.
Donc, dans tous les cas, on te réinvitera pour la sortie soit de Frogit, soit de la boîte à outils, soit des deux. Et puis, pour poursuivre tes aventures de mentor. Puisque tu me disais d'ailleurs que tu fais basta les prestations et tu te dédies direct seulement au mentorat, c'est ça?
Exactement, je vais me dédier au mentorat cette année, aux formations. Voilà. Transmettre un petit peu mes connaissances et puis justement m'occuper de ces deux SaaS parce que ça fait quand même beaucoup de... Parce que je suis product owner sur Frogit et je suis CTO des deux SaaS, donc ça fait quand même beaucoup de travail.
Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci, au revoir.